Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau numéro de Distill News. Je vous propose donc qu'on parcourt aujourd'hui le 55e numéro déjà intitulé 654 millions de bouteilles exportées et envoyé à tous les abonnés le mercredi 23 février 2022. Au menu de ce numéro, vous trouverez un bilan 2021 de la filière vin spiritueux de France, des chantiers de distillerie, des spiritueux aux huîtres, des RTD de bar, toujours plus d'upcycling, ça c'est assez récurrent maintenant, une bouteille graduée, un tapis rouge, une potentielle distillerie en DAO et encore des NFT, des influenceurs vin et cocktail, le bilan du Dry January et j'en passe. Comme toujours, si ce contenu vous intéresse et si vous le souhaitez le recevoir en avant-première directement dans votre boîte mail, vous pouvez vous abonner évidemment gratuitement à la newsletter sur distillnews.com. Et à noter également, si vous souhaitez soutenir tout ça financièrement, j'ai également mis en place un Patreon avec différents niveaux et notamment, si vous le choisissez, c'est évidemment facultatif, vous pourrez également recevoir en avant-première ce contenu podcast, vidéo et audio, ainsi que d'autres goodies. Mais bref, je vous invite à checker tout ça et puis écouter dans tous les cas. C'est parti. On démarre avec les news produits donc et après sa collaboration avec les Chips Lays, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça il y a quelques semaines, on a la Eastside Distilling Company à Portland qui expérimente désormais un nouveau type de whisky, enfin pas vraiment un whisky, mais un assemblage de whisky et de liqueur de cerise au marasquin. Le produit titre à 30% d'alcool et je suis sûr que ça devrait inspirer quelques Manhattan notamment. Du côté de Maison Ferrand ensuite, on ne chôme clairement pas puisqu'il y a régulièrement des nouveautés. Et la dernière en date, c'est tout simplement que la Maison de Cognac a annoncé l'arrivée d'une nouvelle marque inédite qui s'appelle Cane Rock. Et il s'agira cette fois d'un rhum épicé avec de la vanille, notamment de la noix de coco, du gingembre et tout droit sorti des distilleries jamaïcaines Long Pond et Clarendon. Du côté des Antilles, sinon on apprend que St. James a grandi sa gamme et maintenant propose son rhum blanc bio également dans une version avec plus d'alcool à 56,5% très précisément. Dans le sens inverse, on a Absolute Vodka qui, elle, réduit le taux d'alcool de certaines de ses déclinaisons aromatisées. Ainsi, raspberry, vanilla, pear, passion fruit, mango et watermelon passent à 38% d'alcool au lieu de 40% précédemment, et la marque en profite aussi pour revoir le design de ses bouteilles, ainsi que leur composition, puisque désormais, c'est plus de 50% des bouteilles qui est fait en verre recyclé. Les cognacs Prince Hubert de Polignac ont dévoilé lors du récent Wine Paris & Vin Expo Paris une nouvelle bouteille. Et toujours à Cognac, on a une nouvelle marque qui fait son apparition dans le paysage. Ça s'appelle Fusion Cognac par la toute jeune maison Alchimie qui date de 2021 pour le coup. Et il y a donc 1500 bouteilles de ce VS donc pensé pour être dégusté en long drink, ça change, ou cocktail. Et côté design, on notera également sur la bouteille le côté gradué, donc bouteille doseur, donc plutôt moderne. Le petit insolite ou pas de la semaine, pour finir sur cette rubrique produit, on a la distillerie australienne Never Never qui a sorti un Oyster Shell Gin, soit un gin aux coquilles d'huître. Et hasard du calendrier ou non, j'ai également vu remonter dans mes flux le fait qu'il y a une certaine Industrious Spirit Company, donc basée elle aux États-Unis, qui a également lancé fin janvier une vodka inspirée de ce même ingrédient, et le tout sous le nom Austreida. Du côté des RTD maintenant, on a les bars qui clairement s'y investissent, je pense, de plus en plus. Et on a un exemple dernièrement avec le bar londonien The Gibson, donc le bar de Marianne Becquet, qui s'est associé avec la vodka ukrainienne Dimas. Et avec cette collaboration, sont nés des cocktails prêts à boire qui twistent les classiques, et notamment le Cosmopolitan, le Martini, l'Espresso Martini, ainsi que le Gimlet. Et à noter, je ne sais d'ailleurs pas pourquoi davantage de bars en France ne le font pas, mais le Gibson fait également ses propres RTD qu'il vend en livraison depuis son bar. En France, sinon, j'ai vu que le syndicat, donc le bar à Paris, qui est dédié aux spiritueux français, qui va, semble-t-il, lui aussi se lancer dans les cocktails prêts à boire, mais en canette, et le tout sous sa bannière, sous la bannière de sa filiale SYRTD. Et il y aurait quatre références disponibles, à savoir un espresso martini à base de cognac, un Pornstar martini à base d'armagnac, lui, un Negroni à base d'eau de vie de framboise, et un pisco, entre guillemets, sour à base de calvados, lui. Donc, clairement, des cocktails classiques revisités avec des spiritueux français. Bref, tout ça pour dire que ça bouge clairement, y compris en France, dans ce domaine. Et je pense que j'aurai l'occasion d'y revenir dans les semaines qui viennent avec d'autres marques que j'ai vu se créer dernièrement. On passe au news business maintenant avec la Gin Guild et des données du département HMRC, donc un département non gouvernemental britannique, qui nous explique que les exportations britanniques justement de gin ont baissé en 2021 et en cause, on s'en doute, le Brexit et la pandémie bien évidemment. Ensuite, on a la distillerie Varengem, donc en Bretagne, qui a, elle, bouclé son année 2021 avec un chiffre d'affaires de 5 millions d'euros, avec une progression de plus 30% par rapport à 2020 et avec 400 000 bouteilles produites sur l'année. Donc sur ces dernières, donc sur ces 400 000 bouteilles, pour info, la moitié sont destinées à la GMS. On a ensuite 20% qui est destiné au réseau caviste et le reste, les 30% restants, qui est divisé de manière apparemment assez équitable entre les magasins spécialisés, donc type boutique bio, l'exportation et encore sa propre boutique qui a accueilli, l'air de rien, 12 000 visiteurs l'an dernier. En outre, on apprend que la distillerie va investir 1 million d'euros pour optimiser son outil de production et notamment être capable de produire davantage sans pour autant consommer davantage d'eau et d'énergie. Et elle ouvrira également cette année une tonnellerie. Pour Courvoisier, sinon, pas mal d'annonces ces derniers jours, puisque la maison de cognac a un nouveau directeur général, c'est Richard Costa Savelli. Elle a également un septième maître de chai en la personne de Thibaut Ontanks, qui était jusque-là, je crois, assistant du maître distillateur, qui est également maître de chai. On a également l'artiste Yinka Ilori qui inaugure un rôle de Ambassador of Joy, pourquoi pas. Mais aussi des bouteilles qui changent de look, et personnellement j'aime beaucoup. Et le tout s'accompagne aussi d'une campagne vidéo intitulée We Found Joy avec l'actrice Rashida Jones, entre autres. Côté groupe, plus globalement, Beam Suntory, donc qui détient Courvoisier, a vu ses ventes augmenter de plus 11% sur les deux dernières années. Pour Marie Brizard Wine and Spirit, donc qui détient notamment les marques William P ou la tequila San Rosé, eh bien elle affiche un chiffre d'affaires 2021 de 166,7 millions d'euros, dont quasiment la moitié, donc près de 80 millions d'euros en France, en progression de 3,5%. Et au global, le groupe affiche un léger repli de 1% par rapport à ses 169 millions de chiffre d'affaires en 2020, mais avec tout de même un quatrième trimestre en hausse, lui, de plus 5,6%. Ensuite, Becley, donc la maison mère de la tequila José Cuervo, du whisky écossais irlandais, je vais y arriver, Bushmills ou encore du rhum épicé Kraken, a lui rapporté une croissance de son bénéfice net trimestriel de plus 72% pour atteindre les 77 millions de dollars. Et pour le reste, le groupe envisage sinon des hausses de prix pour la suite, afin notamment, il explique, d'atténuer les pressions sur les coûts de la chaîne d'approvisionnement mondiale. Et là, il communique dessus, mais j'imagine que ça va concerner à peu près tout le monde. Dans un tout autre registre, on a Campari qui annonce lui être pour sa part partenaire officiel du 75e Festival de Cannes qui se tiendra du 17 au 28 mai 2022. Et vite fait en passant, d'après Bloomberg, les discussions entre Constellation Brands et Monster Beverage progressent, donc à suivre également ces prochaines semaines. On passe maintenant au gros morceau de la semaine, à savoir la Fédération des exportateurs de vins et spiritueux de France qui a communiqué sur les résultats de la filière en 2021. Les principaux chiffres à retenir sont un chiffre d'affaires donc de la filière de 15,5 milliards d'euros en hausse de plus 28,3% par rapport à 2020 et plus 10,5% par rapport à son niveau historique de 2019, un volume des ventes de 202,5 millions de caisses, soit plus 10,6% de progression, et c'est la première fois aussi au passage que depuis 2012 que le seuil des 200 millions de caisses est dépassé, et tout ça pour un excédent commercial de 14,2 milliards d'euros en progression donc de plus 29,1%, ce qui conforte les vins et spiritueux dans leur place de second excédent commercial derrière l'aéronautique, donc autant dire que ça pèse. Pour un détail côté spiritueux plus spécifiquement, j'ai mis quelques tableaux dans la newsletter que je vous invite donc à retrouver en description avec le détail donc sur plus spécifiquement. Donc là, les chiffres que je vous donnais, c'était sur la filière vin et spiritueux dans sa globalité, mais il y a également dans tous les documents, les présentations qu'a partagé la FEVS ou la FEVS, je ne sais pas. Vous avez tout le détail également par catégorie, donc les spiritueux, mais aussi dans le détail, à savoir combien ça représente pour le cognac, pour l'armagnac, enfin bref, tout ça. Pour ce qui est du Dry January, sinon, près d'un mois après sa fin, donc c'était au mois de janvier, comme son nom l'indique, Nielsen IQ a fait le point. Donc, dans les grandes lignes, ce qu'on peut retenir du Dry January cette année, c'est que sur ce mois de janvier 2022, et si on compare à la moyenne des mois de janvier depuis 2016, et clairement, la consommation de spiritueux a baissé de 6%. Dans le même temps, on constate que les ventes de bières sans alcool ont très fortement progressé. Donc, clairement, il y a eu un report des boissons alcoolisées vers les boissons sans alcool, type bière sans alcool, et avec très clairement un plus 87% par rapport à la moyenne des 7 derniers mois de janvier également. Donc pour un total de 4,4 millions de litres de bière sans alcool écoulés cette année. Et d'un point de vue démographique, on note que le phénomène séduit essentiellement les plus jeunes, puisque 21 000 foyers de moins de 35 ans se sont détournés du rayon bière et 46 000 autres foyers pareil de moins de 35 ans se sont détournés, eux, du rayon spiritueux, et ce par rapport au même mois de janvier, mais en 2020. On notera en revanche que pour les foyers de plus de 50 ans, visiblement, la tendance a été inverse avec plus de foyers qui se sont tournés vers ces rayons. Bref, j'espère que tout ça n'est pas trop confus, mais voilà, comme pour le reste, tout ce qui est chiffres et tout, clairement, je vous invite à retrouver en description le lien vers la newsletter où vous pourrez retrouver toutes ces sources, tous les chiffres détaillés, quelques graphiques et tout. Bref, pour approfondir votre connaissance du sujet. Et toujours sur cette thématique, sinon, aux USA cette fois, on a CGA qui rapporte que cette année, 35% des Américains en âge de boire ont participé à ce Dry January, contre 21% en 2019. Et là où c'est assez intéressant aux US, c'est qu'aussi on constate que dans les bars, les ventes de produits sans alcool ont augmenté de 295 millions de dollars par rapport à janvier 2019. Donc clairement, malgré Dry January, ceux qui le faisaient, donc là on est sur un tiers des Américains visiblement, ça ne les détournait pas forcément de sortir dans des bars où finalement l'offre est plus conséquente, plus intéressante aujourd'hui sur ces alternatives. Bref, je clôt ce petit chapitre Dry January et on revient maintenant avec des chantiers de distillerie, avec celui notamment de Maison Jouff, donc qui est à l'origine du pastis breton Brastis, entre autres, qui a lancé en octobre dernier un chantier pour sa future brasserie-distillerie qui sera située à Planquet, non loin de Dinan, dans deux bâtiments d'une surface totale de 1300 m². Au programme, deux alambics pour des productions de whisky, de gin, vodka et lambig, et c'est un chantier de 1,3 million d'euros qui devrait aboutir au second semestre 2022. J'attends de voir, parce que pour les petits curieux comme moi, sur leur page Facebook, il y a également des petites vidéos qui font des petits plans d'étape du chantier. Je ne sais pas si les vidéos sont très récentes, mais on voit que ça progresse, mais qu'il reste quand même pas mal de boulot. Donc, à suivre. En Écosse, sinon, toujours nouvelle distillerie, on a R&B Distillers, donc propriétaire de Isle of Raza Distillery, qui va construire une nouvelle unité de production de single malt avec en mode du champ à la bouteille, et elle se situera à Campbelltown et portera le nom de Macri Anish Distillery, désolé pour l'accent écossais. Bref, capacité de production anticipée, 400 ml d'alcool pur par an, donc c'est pas tout petit, hein, avec un lancement du chantier prévu en 2023. Et au passage, pour ceux qui songent à se lancer dans ce type d'aventure, il y a Rum Porter qui a publié une interview avec Jennifer Frère-Roskis, qui est juriste spécialisée dans les vins et spiritueux. Et ça y parle justement de formation théorique et pratique, de droit, d'accompagnement justement pour éclaircir un peu tous ces sujets qui ne sont pas forcément faciles quand on veut se lancer justement dans un projet de distillerie. On passe au développement durable maintenant avec des petites news de Spirited Union, donc qui est aux Pays-Bas, qui a fêté ses 5 ans et qui, pour l'occasion, a annoncé avoir changé de bouteille de ses Botanical Rums pour un modèle contenant notamment 40% de verre recyclé et surtout 31% plus léger que son précédent modèle. Donc la distillerie a de même éliminé le plastique de ses emballages. Et elle compte ainsi réduire de plus de 370 tonnes ses émissions de gaz à effet de serre sur l'année 2022. Donc comme quoi, c'est des petits changements qui peuvent avoir de grands effets. Et tout ça, c'est sans même compter les gains que ça peut avoir en termes de transport, puisque forcément, des bouteilles plus légères vont être plus faciles à transporter et émettre beaucoup moins de gaz à effet de serre lors du transport. Côté upcycling, on a Beer, Wine and Spirits qui a réalisé un petit reportage chez Rebrew, donc qui est basé de mémoire à San Diego, et dont la spécialité est de produire des spiritueux, donc gin, vodka et entre guillemets whisky, à partir de matières premières périmées, voire ou invendues, et notamment des mauvaises bières, mais pas que. Bref, un reportage à découvrir, pareil, vous retrouverez le lien dans la description. Et au-delà de tout ça, si cet exemple justement de Rebrew vous a intéressé, on a justement exploré le sujet du surcyclage en français dans notre filière spiritueux dans le tout dernier épisode du Bottlefield Show. Le tout avec de nombreux autres exemples de transformation, y compris même du fromage à base de baies de genévrier utilisé pour la distillation du gin, ou même du mobilier de bar fait à partir des drèches de la production de bière. Bref, ça se passe sur YouTube, le lien est toujours en description, comme tout le reste, vous m'en direz des nouvelles. Info blockchain maintenant, Maker's Mark donc s'intéresse à son tour au NFT, la marque ainsi devenue le bourbon officiel de la collection Party Horses, donc une collection de NFT, ce qui a de quoi donner un peu plus d'intérêt à cette énième collection, je dirais, de JPEG, en les associant cette fois à des vrais événements physiques, dans le réel, ainsi que des éditions limitées du dit whisky. Donc on a un petit aperçu. Et au passage, c'est un branding plutôt malin, puisque je crois qu'au mois de mai, vous avez le Kentucky Derby, donc une célèbre course hippique, dont le sponsor officiel est son concurrent Woodford Reserve. Donc ça permet de les positionner également là-dessus, mais de manière beaucoup plus, on va dire, moderne, via cette collection de NFT. Côté DAO, ensuite, on a donc ce qu'on appelle des organisations autonomes décentralisées, donc pareil, basées sur toutes ces techno, blockchain et compagnie. On a un projet de première distillerie gouvernée par sa communauté qui est apparue et qui s'appelle Distillerie DAO. Donc voilà, il y a un site web et je vous avoue que ça reste encore assez vague et obscur et pas très transparent puisque je n'ai pas trouvé de nom ou de visage derrière ce projet. Mais néanmoins, c'est assez intéressant puisque ça prouve qu'il y a plein de ponts possibles et de nombreux angles de rapprochement entre nos filières spiritueux et toutes ces technologies blockchain, donc un peu qui changent un peu de tout ce qui est juste purement NFT, parfois pas très utile. Donc à suivre évidemment dans les mois et années à venir, il faudra simplement, parce que je pense que d'autres projets de ce type devraient voir le jour, il faudra simplement être capable de reconnaître ceux qui sont légitimes des parfaites arnaques et Au passage, hein, n'oublions pas que les plateformes de financement participatif sont en place, sinon depuis des années, et ça fonctionne déjà très bien. Donc, il y a des solutions plus classiques. C'est pas la peine de se lancer dans le NFT, dans les DAO, tête baissée dans tous ces, dans toutes ces technos, tous ces un peu ces buzzwords, simplement pour avoir l'air moderne ou alors simplement pour faire pondre des communiqués de presse. Donc voilà. Donc, petit rappel, juste pour dire que, en fait, toutes ces technos sont très cool, à voir comment elles se développent, mais ne pas oublier pourquoi on veut le faire et ne pas oublier, ne pas perdre de vue qu'il y a aussi des solutions qui existent déjà, qui marchent très bien. Donc, voilà. Et justement, pour revenir dans le monde physique à présent, on a TF1 qui, donc côté portrait, qui a suivi Olivier Buzyne dans son travail de bouilleur de cru ambulant qui surveille, comme le dit dans le reportage, son alambic avec les mains et ses oreilles. Donc un petit sujet d'un peu moins de 5 minutes, ça se passe sur la plateforme MyTF1, c'était dans le JT de 13h, et écoutez, c'est très, très intéressant et incontestablement craft pour le coup. Toujours dans le registre des portraits, on a sinon, mais dans un tout autre style, Barmak qui s'est intéressé à Marion Tago, influenceuse qui monte dans l'univers cocktail, puisqu'elle a pas moins, l'air de rien, de 350 000 abonnés sur son compte TikTok. Et dans la continuité justement, si ce côté influenceur vous intéresse, on a So Wine Talk qui s'est justement posé la question du poids des influenceurs sur les réseaux sociaux, à travers un nouveau podcast qui a été enregistré à l'occasion de Wine Paris and Vine Expo Paris. Et donc ça explique, c'est une discussion à peu près, c'est un panel de plusieurs personnes, ça dure une quarantaine de minutes dans lesquelles ils expliquent comment les marques peuvent capitaliser sur ces influenceurs, et met tout ça en perspective, notamment vis-à-vis de la loi E20, de la transparence publicitaire, qu'il ne faut pas oublier quand on se lance dans tout ça, mais aussi avec les témoignages, le témoignage d'Émile Codins, qui est un vigneron au demi-million de followers sur TikTok. Et du coup, petit aparté, j'en profite, je lance le compte Distill News sur TikTok, à voir qu'est-ce qu'on va développer dessus, mais en tout cas, si vous voulez vous y abonner, Distill News sur TikTok. Et pour revenir au podcast maintenant, pour les amateurs donc de ce format, sur la thématique bar plus spécifiquement, on a le site australien je ne sais même pas comment on prononce ça, qui a tout récemment lancé le sien et qui s'appelle Drinks at Work. Pour finir, vite fait en passant, on a côté Awards, donc Tales of the Cocktails, qui a ouvert les nominations pour ces Spirited Awards, justement, et vous pouvez donc soumettre vos bars, vos bartenders, enfin toutes les catégories proposées, vous pouvez soumettre vos favoris, et ce jusqu'au 8 mars. Dans l'agenda, sinon petit récap, on a la Paris Cocktail Week qui revient du 7 au 14 mars prochain, on aura dans la foulée le salon Spirits of Japan le 13 et 14 mars, donc vraiment dans la foulée, et également Cocktail Spirit, donc toujours chez Liquid, qui annonce son retour pour les 12 et 13 juin prochains, et ça se passera toujours au Palais de Tokyo, donc à suivre. Pour conclure, un petit mème trouvé sur Instagram, un petit visuel où on voit quelqu'un brandir une pancarte qui dit « You can be famous and not have a tequila brand », et voilà. Comment ne pas être d'accord avec ça quand on voit toutes les news qui vont dans le sens inverse, justement. Donc voilà, c'est tout pour cette semaine. J'espère que ce numéro vous a plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, à repartager. Je vous rappelle donc qu'il y a un Patreon si vous voulez accéder à tous ces contenus podcast en avant-première désormais. C'est évidemment facultatif et tout sera publié et public dans tous les cas. Si vous n'êtes pas encore abonné à la newsletter, abonnez-vous sur distillnews.com. Tous les liens, toutes les sources sont en description, en commentaire. Et voilà. Et puis également, si vous voulez noter ce numéro, vous pouvez le faire sur distillnews.com, également dans les archives du site. Bref, ça fait pas mal d'infos. Je vais m'arrêter là, tout simplement. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, très bonne semaine et à très vite pour le nouveau numéro, donc qui sera le 56e dès mercredi. Ça sera le 3 mars, je crois. Allez, ciao!